Salut à toutes, salut à tous, merci de nous rejoindre. Vous êtes bien sur Radar, on chamboule un peu nos programmes puisque on va faire un peu comme BFM priorité au direct avec un événement aujourd'hui. On vous a assassiné de com sur les réseaux pour vous présenter justement Philippe Manœuvre qui est en dédicace à Caen, à la galerie L'Œil Histrion qui nous reçoit, 3 rue Saint-Michel à Caen. Merci Jean-Michel pour cet accueil. Cette interview n'est pas réalisable sans le concours de Monsieur Benson aka François Delahaye aka fondateur de la radio Replay que vous pouvez écouter sur Radio Replay. On vous redonnera les adresses dans les liens, les podcasts, etc. Vous pourrez entendre cette interview en replay sur Replay également. Et donc on va s'intéresser évidemment et accueillir notre ami Philippe Manœuvre. Comment ça va Philippe?
Ben bonjour, ça va très bien, vous m'entendez?
On vous entend très bien, merci.
Génial, super content. Alors je viens d'arriver, je descends du train et je me suis précipité ici pour notre rendez-vous avec Radar, voilà.
Eh ben c'est très gentil à vous de nous consacrer du temps pour une petite web radio comme la nôtre.
Mais non, c'est bien normal.
on vous voit souvent dans des grands médias en général, donc voilà, c'est une sorte de retour aux sources un peu, les radios libres, etc.
Ah ben oui, ça nous rappelle 1982, la grande époque du boulevard du rock, où on nous appelait « Viens avec tes pirates des Stones », et on commençait à 11h du soir jusqu'à 6h du matin. C'était une explosion créative à l'époque, c'était fou, puisque en 80, il y avait 3 radios en France, et en 81, il y en avait 1000. Ouais. Donc c'était un sacré changement quand même.
Et il y a de plus en plus de web radios, il y a une centaine de web radios qui se créent chaque jour, qui voilà. Meurent chaque jour.
Oui, il y en a beaucoup qui disparaissent, hein. C'est pas facile. Il y a une lutte pour gagner, garder des auditeurs, tout ça, la gratuité ou pas, enfin tout ça pose des questions, c'est difficile, la vie est difficile.
Et puis ça a évolué aussi quand on voit ce qui est devenu, parce que les premières radios libres dont on se souvient et qui sont encore présentes entre Énergie, Skyrock, etc., quel regard vous portez justement sur ces évolutions-là?
Bah, quand il y a une explosion créative, il y a 1000 créatifs qui se déclarent, et puis après... Les gros, y en a qui deviennent très gros, très puissants, et ils se mettent à racheter les petits autour. C'est toujours comme ça. C'est comme ça dans la BD, c'est comme ça dans le rock, et ça a été comme ça dans les radios, voilà.
Mais est-ce qu'on se fourvoie finalement un peu?
Non, on se fourvoie pas, parce que ce qui est important, c'est qu'il y a des gens qui y ont cru et qui ont fait leur truc et qui se sont éclatés, qui ont apporté quelque chose. Je me souviens, il y a des groupes qui n'auraient jamais dû exister, des groupes comme Jadvio, qui était devenu énorme grâce à toutes ces radios libres, qui essayaient de passer autre chose, qui passaient du reggae, qui passaient... Enfin, ça a défini la créativité pour les 20 années qui venaient, puis après, ça passe au business. Après, c'est le business, et je te rachète, tu me rachètes, je crée un réseau, je fédère toutes les radios rock, je fais le réseau Bouygues FM, etc. Et puis, bon, c'est l'histoire du monde. Hein. Et puis après, ça va recommencer dans un autre domaine.
Rabattez-vous sur les web radios, c'est les nouvelles radios libres.
Mais oui, et puis absolument, parce que les gens peuvent dire beaucoup de choses qui ne s'autorisent plus sur les grands médias. Hein. Les grands médias, c'est de plus en plus...
Ils ne sont pas assujettis au CSA déjà.
C'est vrai.
Il y a cette liberté de ton... qu'on peut avoir en plus. Mais bref, là n'est pas le sujet. On est déjà parti dans des choses qui sont pas forcément ce pourquoi on était parti, à savoir que vous sortez un livre qui s'appelle Flashback Acid chez Robert Laffont. Alors c'est un livre, c'est une sorte de face B en fait, la face A étant rock.
Oui, voilà. C'est un livre qui devait s'appeler Unroll, puisque le premier s'appelait Rock, celui-là il devait s'appeler Unroll. Mais j'ai changé d'éditeur et ça m'embêtait de faire un book rock chez un éditeur et Unroll chez l'autre. Je trouvais que ça manquait de cohérence. Et puis au milieu du... Donc pendant tout le temps où j'écrivais le livre, il s'est appelé Le musée de la drogue et autres histoires, ce qui était un titre un peu ballot. Et puis finalement, on est tombé sur Flashback Acid. On s'est dit, voilà, c'est comme Beggar's Banquet, c'est un titre en deux mots. Ça me plaisait bien, donc on a mis ce titre. Voilà.
Et en tête de ce livre, vous expliquez exactement ce que c'est un flashback acide.
Oui, parce que alors là, plus personne ne s'en souvient. Pour savoir ce que c'est un flashback acide, il faut avoir pris de l'acide. Et ça remonte aux années 60, quand c'est une des premières fake news. voilà, tous les étudiants américains essayaient le LSD, tripaient sans vergogne. San Francisco était devenu la plaque tournante du psychédélique. Les groupes étaient partis évidemment en éclaireur dans cette direction. Et donc le gouvernement américain a commencé à répandre des rumeurs en disant « Oulala, mais attendez, vous prenez du LSD en 1967, mais dans 20 ans, en 1987, il se pourrait que vous ayez des flashbacks acides. Et là, mes amis, j'espère que vous ne serez pas pilote d'avion, parce que quand vous aurez le flashback, les 280 passagers derrière, leur vie ne tiendra pas à grand-chose. » Et donc, c'était un truc qu'on martelait dans les débats, dans les télés, dans les radios. On dit « Attention, flashback acide, on va brûler comme si c'était un truc incontournable. » Qu'on n'a jamais vu venir. J'ai interviewé Bette Midler en 1980 et elle me dit « Mais où sont les flashbacks acides, Philippe ?» Alors mince quoi, nous, on attend. Donc voilà, je me suis dit « voilà, c'était une fake news, on peut le récupérer aujourd'hui, c'est rigolo. »
Et justement, ça me permet de rebondir puisque cet opus qu'on va appeler Face B finalement, il parle de... Dans le premier, vous aviez pléthore d'anecdotes sur l'univers qui vous passionne, à savoir le rock'n'roll, évidemment. Et puis on vous a dit, mais où sont les overdoses? Où sont les excès qui collent à la peau de ce style musical?
Oui, voilà, j'avais essayé de me tenir un peu à carreau, de pas raconter des trucs sous l'angle uniquement de la drogue et du rock'n'roll. J'étais resté sur la musique et mes aventures dans ce monde. Et puis donc je suis contacté par un éditeur qui me dit quand même, vous avez pas trop parlé des sujets qui fâchent. Et puis il y a des fans qui me disent la même chose dans la rue à Toulouse. J'allais dédicacer dans une FNAC. Et il y a un gamin qui me dit, donc vous avez pas trop parlé de tous les sujets qui fâchent, hein, la drogue, l'alcool, tout ça, les addictions, mais il me dit, je vous comprends, on peut plus parler de rien. Donc, là ça m'a déclenché, je me suis dit, attends, quand même on peut raconter ce qui nous est arrivé, il n'y a pas de loi contre ça, même si l'époque tout le monde est dans le cocooning, le whitewashing,
la bienveillance.
Ça, moi je vais vous dire, je viens d'une époque où la bienveillance n'était pas le problème numéro un, quoi. Voilà, il y en avait d'autres. Nous, on était venus pour faire du rock dans un monde où régnait l'accordéon. Donc, on n'était pas spécialement bienveillants, on était même radicaux. Voilà, on voulait changer les choses, on voulait changer le monde, changer ce qu'on écoutait. On voulait que nos groupes préférés, le Velvet, Underground, les Stooges, on voulait que ça soit connu du plus grand nombre. On voulait que Roxy Music soit populaire.
Mais elle a marché, cette révolution, selon vous?
Ah bah oui, là aujourd'hui, quand même, j'ai envie de dire mission accomplie. D'ailleurs, c'est un peu ça le problème. Le rock est monté en puissance. Et puis à un moment, on arrive à un plateau. On est les plus grands, on est les plus forts, on est les plus beaux. On joue dans des stades, etc. Et puis, l'époque a changé dans notre dos, sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai une copine qui est manageuse. C'est une amie, elle tourne beaucoup avec des jeunes artistes français, et donc souvent soit en première partie, soit dans, on lui donne des CD, tiens on fait un groupe, un truc, un machin, et chaque fois qu'elle ramène ça à Paris dans les grandes maisons de disques, on lui dit la même chose, on lui dit oh là là, il y a de la guitare, nous s'il y a de la guitare, plus de guitare, on ne veut plus de guitare. C'est le mot d'ordre des majors aujourd'hui. Alors le rock, il est où? Il s'est réfugié chez les petits labels, sur les petits labels indépendants, même des groupes comme Deep Purple et Status Quo, ils sont sur des petits disques, des petits labels de disques indépendants. Et puis, on fait le dos rond, hein, voilà, on attend que les musiques urbaines maintenant tiennent le haut du pavé.
Ouais, c'est ça.
Alors, ça nous dérange pas trop parce que nous, on a beaucoup donné, on a beaucoup fait, et ça nous allait pas très bien d'être la musique dominante. Le rock, il est fait pour être en rébellion, en révolte, en prise de risque. Il est pas fait pour être là.
Donc c'est un bon retour aux sources au final.
Ouais, voilà, c'est reparti pour un retour aux sources où là, il y aura vraiment que les gens que ça intéresse vraiment qui vont. Mais je raconte toujours la même analogie en fait. Je dis, vous savez, les maisons de disques en 1987, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent le vinyle, c'est fini. On démonte les bacs à vinyle dans les FNAC, on ne met plus que des bacs à CD. Si tu veux chercher un vinyle, va en Allemagne, va au Japon, eux, ils continuent. Mais nous, c'est fini, c'est le CD, c'est le futur, c'est le perfect sound forever. Venez, tu n'as pas tes CD, etc. Et donc, bon, on se met à tous racheter nos disques en CD. Et puis, 30 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? le vinyle revient. Choix des gens final. Bah, finalement, on a essayé le CD, on a essayé ceci, on a essayé cela. On préférait le vinyle. C'était le vinyle. Et c'est le vinyle qui est en train de redevenir numéro un planétaire des ventes de disques. Alors, j'ai envie de dire, le rock, ça peut exactement être pareil. Les maisons, c'est les mêmes qui ont dit le vinyle, c'est fini, qui aujourd'hui nous disent le rock aussi. Et je pense qu'il va se passer la même chose qu'avec le CD et le vinyle. Je pense que dans 20 ans, les musiques urbaines vont laisser la place, même dans 15 ans, et le rock va revenir. Le rock reviendra parce qu'il y aura des gamins qui en feront, qu'ils auront une nouvelle énergie, une nouvelle joie de vivre, et puis que là, peut-être on aura besoin un peu d'un chien dans le jeu de quilles. Parce que là, on va avoir 20 ans de cocooning. Mais le rock ne mourra pas.
Ouais, c'est ça, Rock'n'Roll Never Dies.
Mais non, parce que le rock n'est pas un être de chair et de sang. Donc le rock ne peut pas avoir un cancer, le rock ne peut pas passer sous une voiture. Le rock, c'est comme la polka, ça va rester, c'est une forme musicale, les gars. Et tant qu'il y a des gamins qui seront intéressés, qui ramasseront deux guitares, une batterie, et qui partiront avec le rock continuera.
Mais est-ce qu'il peut encore y avoir des légendes comme on a eu des Bowie, comme on a eu des Jagger, où sont les nouvelles légendes? Est-ce qu'on fait encore des nouvelles découvertes?
On peut.
Est-ce que vous avez des coups de cœur?
Mais alors, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Si vous voulez, je vais vous dire, les Sore Losers, Aqua Nebula ou les Viagra Boys, tout ça, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a, un peu cassé la chaîne. Quoi. Voilà, Philippe Marie, qui dirige Gibert, oui, à Paris, qui s'occupe du magasin Gibert, il me dit, il y a des nouveaux groupes, ceux que je viens de vous citer, Dacha Mandala, Sore Losers, Viagra Boys, Endless Boogie, mais ces groupes-là, ils vendent 6 disques chacun. Et donc, c'est fini l'époque où il y avait Dr. Feelgood arrivait et il y avait 800 gamins qui venaient essayer, qui ne parlaient que de ça dans la cour du lycée. J'aime pas, j'aime bien, c'est du lard, c'est du cochon, voilà. Oh, ils jouent au Bataclan, tout le monde allait voir. Ah ouais, finalement, c'est bien. La fois d'après, ils faisaient l'Olympia, la fois d'après, le Zénith. Voilà, c'était ça l'escalator du rock. Aujourd'hui, la chaîne est cassée. Il reste plein de petits groupes qui n'arrivent pas à se faire connaître.
Oui, mais on a l'impression qu'en fait, tout est niche. Tout est rangé dans des cases. On sait que tel groupe va faire du son à la Nirvana, tel autre va faire du son à la Scorpion.
Non, mais il y a des groupes intéressants. Mais je reprends Dacha Mandala, groupe de Bordeaux. C'est un vrai bon groupe. Les Insus les voient jouer un jour dans un festival. Ils disent, mais ce groupe est vraiment bien. C'est comme des petits Led Zeppelin.
Oui, il y en a plein.
Ils ont fait la première partie des Insus au Stade de France. Je les revois 3 ans après. En faisant la tournée Flashback Acid, ils viennent me voir à Bordeaux, ils ont fait un nouveau disque, personne ne les connaît, personne.
Mais comment on fait justement pour les mettre en avant? Quand on voit les associations ou les différents festivals qui sont mis en place à travers, on est en terre de festivals en Normandie, on en a pléthore aussi. Et justement, est-ce que trop de festivals tuent le festival? Comment ça marche au niveau des maisons de disques, etc.
Pourquoi on a connu nos groupes préférés? Parce qu'ils étaient outrageux, ils faisaient des trucs gonflés, ils allaient au-delà, ils rompaient le consensus.
Ouais, mais c'est un peu surfait de péter ses batteries comme les Who et de faire tout et n'importe quoi sur scène, non?
Mais pas que tout et n'importe quoi, mais ils faisaient des choses intéressantes. Iggy Pop, c'était un monstre scénique, c'était des choses fabuleuses, c'était pas que du n'importe quoi, mais il y avait toute une espèce de cohérence, une logique. Aujourd'hui, la société, elle a pas besoin d'être bouleversé dans ses retranchements comme par le rock ni par rien. D'ailleurs, la société, elle a peur, les gens ils sont plus, le futur il est là dehors, on ne sait pas ce qui va rester demain, etc. Donc est-ce qu'on a besoin d'un nouveau chanteur qui arrive, qui renverse la table, qui casse les vitres? Vous voyez, un mec qui ferait son boulot de rocker, quoi, comme faisait Alice Cooper. Là, aujourd'hui, on est dans le monumental. On est dans voilà. Mais le rock n'est pas mort. Le rock va se réinventer. Il y a d'autres façons de faire du rock.
On parle aussi de substances illicites beaucoup dans ce livre,
oui,
évidemment.
Oui, c'est un peu le thème.
On sent vraiment que... Il y a deux interprétations possibles, en fait.
Allez-y.
Soit c'est je suis revenu, ça fait 20 ans que je prends plus rien, je suis sobre, je suis clean, etc. Donc maintenant, ça y est, ça c'est du passé, je vous conseille de pas faire la même chose, etc. Et puis quand même, il y a ce truc, quel est ça, c'était du rock, c'était bien.
Il y a une phrase à un moment qui est la clé, c'est bien sûr, c'est une phrase de Hunter Thompson qui dit bien sûr, je ne recommanderai à personne les cigarettes, l'alcool et la drogue, mais enfin je dois remarquer que pour moi ça a toujours fonctionné. C'est un peu la morale du livre. Donc moi j'ai arrêté de boire à l'an 2000, j'ai arrêté de picoler comme un rat et j'ai arrêté la cocaïne aussi. Donc à partir de ce moment-là, j'ai découvert les champignons. J'ai découvert les champignons d'Amsterdam, donc je vous raconte ça, c'est un chapitre. Après
il y a un chapitre par substance.
Voilà, il y a un chapitre par substance. Il y a la vodka, ça commence avec la vodka. On est en URSS avec les scorpions. Après, il y a le speed avec Motorhead, Lemmy, qui est le grand défenseur des amphétamines, qui dit arrêtez l'héroïne, ça tue les gens, arrêtez la cocaïne, c'est de la merde, prenez du speed, enfin quoi. Donc le personnage mérite d'être vu. Après, il y a tout un chapitre sur David Bowie, qui est lui, défenseur de la cocaïne.
Oui, lui, c'est. Alors, il y a justement c'est l'antagonisme, c'est le revers de la médaille entre Lemmy et.
Je crois que Motorhead, c'est le pôle nord et Bowie, c'est le pôle sud, mais c'est le rock anglais quand même. Et les deux, on peut pas dire c'est pas un rocker. Enfin, c'en est vraiment ces deux-là. Et puis après, il y a un chapitre sur la Cannabis Cup, les gens qui ont continué l'herbe. Il y a le chapitre LSD Symposium où je vais rencontrer tous les anciens hippies qui se réunissent parce que l'homme qui a inventé le LSD, qui l'a synthétisé, s'appelle Albert Hoffman. C'est un scientifique suisse qui travaillait pour les laboratoires Sandoz. Il a synthétisé le LSD en 1943. Il avait 25 ans, mais il a vécu très vieux et il a vécu jusqu'à 101 ans. Et donc... pour fêter ses 100 ans, ils ont organisé à Bâle, où il habitait, une espèce de réunion de tous les gens qui avaient pris du LSD, défendu le LSD. Il y avait la veuve de Timothy Leary, enfin, il y avait plein de gens. Et donc, on m'a invité, en tant que rédacteur en chef de Rock'n'Folk, à aller à cette convention du LSD. Donc, je montre qu'en fait, il y a des suites, il y a des restes. Peut-être qu'on peut retrouver... Enfin, que la drogue, elle a continué à se réinventer, à passer dans d'autres façons de la consommer, quoi. La Cannabis Cup à Amsterdam, c'est les Jeux Olympiques de la weed. C'est un truc, c'est monumental. Il y a 3500 participants. Pendant 8 jours, ils fument des arbres. Et donc, moi, je suis au milieu de ça et j'essaye de voir comment on peut être rock dans ce nouveau monde de la drogue. C'est une nouvelle drogue, quoi.
On va revenir sur tous ces sujets tout aussi passionnants les uns que les autres. On va faire une petite pause musicale. Dans votre jeunesse, vous jouiez de la basse. Est-ce que vous jouez toujours ?
Non, de la batterie. Je jouais de la batterie.
Ah, je vous ai vu jouer de la basse dans un document INA.
Oh, oui.
Avec un beau t-shirt
Blue Oyster Cult. Oh là 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 là.
On va écouter un petit Blue Oyster Cult.
Avec plaisir.
This ain't the summer of love. C'est le titre qu'on écoute tout de suite. On se retrouve juste après sur Radar. Vous êtes toujours à l'écoute de Radar. Et en replay sur replay.
Replay!
S'il vous plaît. À l'instant, c'était les Blue Oyster Cult avec This Ain't the Summer of Love, un titre choisi par notre ami Benson de Radio Replay pour la programmation musicale de cette interview qu'on continue avec l'ami Philippe Manœuvre au sein de la galerie L'Œil Histrion qui nous reçoit et qu'on remercie. Philippe, on parlait de substances illicites, etc., de rock'n'roll, de ce qui fait l'inspiration de tous
d'ailleurs,
les artistes.
D'ailleurs.
Oui.
Vous avez vu cette candidature, la présidence de la République, il y en a peu qui sont pour la légalisation.
Ah, il y en a qu'un, il y a Jadot, je crois.
Ouais, c'est quand même incroyable. Bah oui, les Verts.
Les Verts, bon. ça tombe un peu sous le sens.
Vous vous rendez compte, enfin, tous les pays autour de nous, c'est légal, que ce soit la Hollande, la Belgique, l'Espagne, l'Italie,
oui, bien
partout,
sûr.
La Suisse elle-même. Il y a des cannabis clubs et nous, on est les seuls. Enfin, bref.
Et ouais. Alors,
je profite qu'on était sur Radar.
Mais bien sûr, est-ce que du coup, ça veut dire. Enfin, là, on comprend hein, le message, mais pour quelqu'un qui est devenu sobre, justement, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ?
Je dirais que l'herbe, ça permet de faire un petit coussin moelleux, voilà, c'est pas une drogue dure, on en conviendra, quoi,
ouais,
voilà.
Okay.
Donc fumer un petit pétard par-ci, par-là, pour écouter de la musique, comme disait Bachung, ça reste ce qu'on a trouvé de mieux,
ouais,
vous voyez. Voilà, donc voilà, mais par contre, moi j'ai arrêté les drogues dures, voilà, j'en
ai
Jack Daniels, de cocaïne, qui ont été un peu pendant 20 ans, c'était mon régime, hein, c'était bon. En même temps, quand vous êtes rédacteur en chef d'un journal de rock, les gens vont pas s'étonner qu'il y ait une bouteille de Jack Daniels sur le bureau, tout le monde dit ah il est rock'n'roll, bravo.
Oui, puis c'était un peu quand on accueillait un tel ou bidule, c'était comme le café,
voilà, oui, voilà.
Tu veux un café,
on avait remplacé la caféine par un autre produit, voilà, on est passé du noir au blanc.
Justement, alors on parle aussi d'inspiration, on parle de musique, etc. Est-ce que ça se passe aussi comme ça dans le milieu du rap, par exemple, qui eux ont un discours tout aussi subversif que le rock'n'roll ? Est-ce qu'on est d'accord sur
alors
ça ?
Je sais pas, j'ai bien fréquenté Joey Starr parce qu'on a fait deux bouquins ensemble, c'est un copain, et bon, j'ai vu que oui, ils avaient leur petit rituel aussi. Ils aimaient beaucoup Joey Starr, il aime beaucoup le rhum.
La question, c'est est-ce que le rap. Est-ce que le rap, c'est du rock'n'roll ?
Ah, au début, ça l'a été. Au début, c'est toujours créatif, incroyable. Il y a des empires qui se construisent ou pas, mais il y a des gens qui amènent une certaine idée de la musique. Et puis après, arrivent des professeurs. Ah non, on ne fait pas comme ça. Attendez, là, etc. Puis ça se régularise. Puis il y a une norme qui s'impose. Là, aujourd'hui, l'explosion créative, c'était 1987-91. Le rap. Aujourd'hui, maintenant, je dirais qu'ils sont en pleine moisson. Récoltent. La moisson, elle est énorme. Enfin, un type comme Orelsan, c'est un vendeur de disques colossal et c'est un talent énorme.
Bah, on a même des Boobas qui sont triple disque de platine, etc.
Alors, le truc incroyable, c'est que c'est des gens qui cartonnent, qui vendent des centaines de milliers de disques et qu'on entend pas
à la
radio.
Ouais, ouais.
L'autre fois, Booba était chez Hanouna et donc Hanouna lui cire les pompes, le plus grand machin. Il dit ouais, mais je suis peut-être le plus grand, mais je suis jamais passé sur RTL.
C'est ça.
Il est jamais passé sur RTL, Booba. C'est quand même quand.
Et alors peut-être qu'il y passera dans 10-15 ans parce qu'on a bien des Bowie, on a bien des Motorola qui passent sur le RTL aussi.
Oui,
maintenant.
Oui, mais on travaillait pas dans la même direction. Je crois que c'est la force du rock, c'est notre force, c'est les chansons. Tu prends le n'importe quel album du Jefferson Airplane, tu tapes dedans, tu vois tomber White Rabbit. White Rabbit, c'est dur à imaginer d'en faire une autre comme ça. C'est des chansons magiques, c'est des chansons fortes. Le rap, Quincy Jones avait très bien décrit ça. Il avait dit c'est CNN. C'est le CNN de la rue, c'est le CNN des blacks, c'est le CNN des rappeurs. Et est-ce que CNN d'il y a 20 ans, t'as envie de savoir ce qui se passait il y a 20 ans? Non, tu t'intéresses à ce qui se passera. Le rap, ils sont condamnés à essayer d'aller devant, devant, devant. Qui va être le prochain? Qui va remplacer Aurel San? Qui va remplacer Booba? C'est ça qui les intéresse. Là, récemment, il y a eu un grand film sur NTM. Il y a eu très peu d'entrées. Ça n'a pas du tout déclenché les passions des foules. Ça a été même assez difficile pour ce... Alors, on pourrait se dire quand même, le monde est rap. Aurel San vend 600 000 albums. L'histoire de NTM, ça va intéresser 1 million de gens en France. Pas du tout, hein. Loin s'en faut. Alors que les moindres films rock ont gardé un gros public. Donc nous, je pense que la force du rock, c'est les chansons. C'est ça, les chansons de Jimi Hendrix, mais les chansons des Stones, les chansons... C'est ça qui est fort. Moi, mon fils, il a 9 ans, et il adore les Beatles parce que... Putain, il y a des trucs balèzes, quoi. Quand il écoute Obladi Oblada, ça les fait danser dans sa classe.
Ça marche. On a parlé d'Aurel San à Canet. Ça va me permettre de rebondir un petit peu sur le côté normand de la chose.
Allez.
On est en Normandie, on est à Caen. Et on va parler un petit peu des Dogs. On va revenir sur le rock'n'roll.
Oui.
Y a une cassette que vous êtes procurée il y a longtemps. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est sorti en vinyle, vous avez permis une sortie vinyle d'une cassette des Dogs?
Comment non, ça... c'est pas une cassette, c'est moi, j'étais manager des Dogs, hein, les premiers Dogs avec les deux de Rouen et les deux de Paris. Il y avait Paul Pechnard et Zox, le bassiste et le guitariste à Paris. Et à Rouen, il y avait Mimi le batteur et Dominique Laboubé. Donc organiser les répétitions, c'était chaud. Hein. Fallait prendre le train pour répéter. Ouais. Bon, mais moi, je trouvais ce groupe génial. Ils étaient à l'époque, c'était en 73. Ils étaient très influencés par les New York Dolls, par le glam. Évidemment, David Bowie arrivait. Et surtout par les Stooges. Ils avaient vraiment mis au point. Ils faisaient un rock entre les Stones, les Stooges. Et Bowie, quoi. Et moi, je trouvais ça génial. Et à un moment, quand on est manager d'un groupe, on vit dans la terreur que ce groupe explose. On sait que c'est du volatile, c'est très difficile de maintenir un groupe ensemble et tout. Et à un moment, j'avais un copain qui avait un Revox. Et on a décidé d'enregistrer.
Magneto à bande, hein, je précise pour
voilà, le Revox,
les non-initiés.
Magneto à bande allemand, ouais. Et donc je lui ai dit, tu pourrais pas venir, on enregistrerait une répétition des Dogs. Voilà. Alors on a enregistré cette répétition des Dogs, et la bande, la vraie bande, hein, la bande master a disparu. Pendant mais au moins 30 ans. Et en rangeant le grenier chez ma mère, je fais comme dans les conneries des maisons de disques, oui, j'ai retrouvé la bande, bah, ça existe, j'ai retrouvé la bande.
Ouais, ça vous est arrivé.
Ouais, donc après, j'ai prévenu les Dogs survivants. Il y avait Dominique nous avait quittés, hélas, mais Mimi était encore là. Zox et Paul étaient très, très contents qu'il y ait un témoignage de la première époque. Quoi, parce que les Dogs commencent à enregistrer en deuxième époque, après le départ de Paul et Zox. Paul Pechnard et Zox, ils sont partis avec Screamin' Jay Hawkins et ils sont devenus les deux fers de lance de son groupe, et les autres ont continué avec Hugues de Porzamparc et après Tony Truant qui est arrivé dans le groupe. Donc ça a été enregistré, mais la première époque l'était pas. Donc moi j'ai sorti ma bande et puis on a fait un petit tirage. Voilà, on a tiré un disque à 2 fois 500 exemplaires, je crois.
Voilà, donc si vous l'avez chez vous, collector.
Oh, collector.
Ah ouais. Rapport à la Normandie toujours, je sais que vous avez une maison pas très très loin.
Alors, ma femme, Candice, que j'aime profondément, elle a une maison à côté de Livaro.
D'accord.
Voilà, dans la forêt.
Vous profitez des festivals un peu normands l'été ou pas?
Ça nous arrive, oui, ouais. Bien sûr. Oui.
Est-ce qu'il y a des festivals qui retiennent votre attention
non,
plus
non,
que
arrêtez,
d'autres
non,
ou,
non. Non, mais non. J'en ai fait 2 ou 3, mais non, là, comme ça, je vais pas vous singulariser ça.
Ok. Alors, ne nous singularisons pas. Merci. On arrive déjà au terme de cette interview.
J'en étais sûr.
Malheureusement pour nous.
Mais merci Fabien.
Merci
vos questions étaient bien. C'est du bon boulot, mon gars.
C'est gentil. Merci beaucoup.
Non, mais je me permets de vous dire ça parce que je suis un peu plus âgé que vous. Et donc, je décerne le prix. Bravo. Bonne interview.
Merci beaucoup. Je ne sais pas trop quoi répondre. Il n'y a rien à répondre en même temps. Voilà, merci. Merci de nous avoir consacrer vraiment du temps pour notre petite web radio à nous et à, enfin, que ce soit Radar ou Radio Replay. Merci encore une fois à la galerie L'Œil Histrion et à Jean-Michel pour son accueil.
Ah oui, on... et puis vraiment la galerie s'est remplie là, vraiment je suis très très inquiet.
Ouais, y a du
que
monde.
Veulent tous ces gens?
Et ben on va justement vous le laisser le Philippe en question faire sa dédicace. Merci à tous de nous avoir suivis où d'où que vous soyez et on se retrouve nous pour une prochaine. On vous laisse en compagnie de la playlist musicale de Radar. Merci encore. Salut, à une prochaine. Ciao.
Merci à tous. Merci.